Stop, c'est parti.
Comment ça marche le journalisme?
Sur Twitter, Instagram.
On est dans un moment de grande confusion.
You are fake news.
La bonne réponse.
Il est 9h40 sur France Inter, vous allez voir, l'instant M, c'est toujours aussi court, mais ça en dit long.
Quand on regarde une série, on sait que ça va se terminer.
Vous me spoiler?
Spoil.
On ne se ferme pas les yeux aussi facilement qu'on se bouche les oreilles.
Il y a plus d'un siècle d'écart entre Édouard Drumont et Éric Zemmour. L'un et l'autre journaliste polémiste, l'un et l'autre auteur de best-sellers. La France juive paraît en 1886, le suicide français en 1994. Drumont, Zemmour, un même usage du scandale, une même omniprésence dans l'espace public. Pourtant, leur obsession diffère. Les juifs pour Drumont, les musulmans pour Zemmour. Je reçois ce matin un historien, directeur des études à l'EHSS, spécialiste de l'immigration en France, un chercheur qui a voulu comprendre. Y a-t-il une vision de l'histoire et une grammaire commune à ces deux pamphlétaires? Un art de faire peur et d'avoir toujours raison? En quoi leur rhétorique est-elle le fruit d'un système médiatique? Pour cela, il lui a fallu interroger la façon dont les journaux, puis la télévision, ont structuré le sens commun, faisant des journalistes des voix bien plus puissantes que les historiens.
L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
J'ai le sentiment que, à la sacralisation des races de la période nazie et précédente, a succédé la négation des races. Et c'est, d'après moi, aussi ridicule l'une que l'autre. Que ça veut dire que ça n'existe pas. On voit bien que ça existe.
Et alors comment, vous me dites. Comment on le voit? Enfin, je comprends pas ce que vous voyez.
Peau, tout bêtement.
Et donc, la couleur de peau, selon vous, fait que moi, j'appartiens à une race différente de la vôtre.
Mais évidemment.
Éric Zemmour, dans le texte, il y a déjà 10 ans, face à Rokhaya Diallo sur Arte. Bonjour Gérard Noiriel.
Bonjour.
Et soyez le bienvenu dans l'Instant M. Votre ouvrage vient de paraître aux éditions La Découverte. Le venin dans la plume, Édouard Drumont, Éric Zemmour et la part sombre de la République. Alors, je l'ai dit, vous êtes professeur et nous sommes ce matin quelque peu vos élèves. Vous le savez, la fin du Second Empire et la Troisième République au XIXe siècle sont des périodes peu et mal étudiées. Alors, je vous demanderai d'abord de nous replanter le décor pour Édouard Drumont. Il y a bien sûr en France l'affaire Dreyfus en 1894, mais la France juive paraît 12 ans avant l'affaire Dreyfus. Et vous parlez d'un antisémitisme latent et exprimé dans l'opinion publique à la fin du 19e siècle. Il est mal connu, cet antisémitisme français-là.
Oui, c'est très très important cette période-là, oui. Puisque la Troisième République met en place les principes démocratiques, les règles démocratiques sur lesquelles on vit encore aujourd'hui. Il y a une rupture avec le Second Empire, où il y avait la censure, etc. Donc il y a une loi fondamentale, c'est la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Oui. Et en même temps, on a avec les lois scolaires de Jules Ferry, avec les progrès aussi techniques, une révolution du journal. Les historiens ont travaillé là-dessus, c'est-à-dire qu'on passe en quelques dizaines d'années de 1 à 10 millions de lecteurs de journaux quotidiens par jour. Donc c'est ça qui crée, d'ailleurs le mot s'impose, l'actualité.
Oui.
On entre dans un nouvel univers dans lequel on est encore aujourd'hui, même si la technologie a changé, parce que
maintenant
c'est la télé, etc. Là c'est la presse, mais on crée un sens commun, voyez, qui est articulé, moi ce que j'appelle la fédiversion de l'actualité, de la politique même, c'est-à-dire beaucoup sur les faits divers. C'est-à-dire les faits divers, vous avez un criminel, une victime et un juge ou un policier. Bon, ça c'est la matrice. Et le génie, entre guillemets, malfaisant, mais on peut dire de génie quand même, d'Édouard Drumont, qui était journaliste, donc déjà qui avait la quarantaine quand il écrit La France juive, c'est de comprendre les ressources qu'offre pour des pamphlétaires réactionnaires comme lui ce type de contexte, si vous voulez, ce nouvel espace public qui est en train de se créer. Donc c'est ça qui est, c'est pour moi un point de départ qui effectivement va focaliser sur les juifs parce que
alors pourquoi les juifs?
Mais parce que si vous voulez, la Drumont est lié à la mouvance catholique, au moment où il y a les lois sur la laïcité. Comprenez, c'est quand Gambetta dit le cléricalisme voilà l'ennemi. Donc il est lié aux catholiques qui étaient très puissants à l'époque, et qui vont réagir,
qui se sentent menacés,
et qui vont véhiculer le vieil antisémitisme traditionnel de la chrétienté, si vous voulez, l'antijudaïsme, on pourrait dire, mais Drumont l'utilise pour en faire quelque chose de nouveau, c'est-à-dire un antisémitisme qui désigne les juifs comme des étrangers et des ennemis de la France, qui vont supprimer, détruire la France. Parce que dans la logique, et on retrouve ça chez Zemmour, c'est une logique qui relève, je dirais, de la tragédie, c'est-à-dire il y a eux et nous, c'est les Français, victimes, et eux, c'est ceux qui nous menacent, et nous allons disparaître. Ça, c'est l'apocalypse. Vous lisez Drumont, vous trouvez ça aujourd'hui par rapport aux musulmans. Et c'est Drumont qui invente ça. Et donc, l'antisémitisme apparaît, le mot d'ailleurs s'impose à ce moment-là. Et donc, il est au point de départ, et donc il va chercher constamment des traîtres juifs, etc. Donc Rothschild, c'est la grande figure.
Alors, vous l'avez dit, donc une formidable explosion du marché de la presse, une augmentation incroyable du nombre de lecteurs, une concurrence féroce entre les journaux. Oui. Que vous rapprochez-vous de ce qui s'est passé tout au long de la carrière d'Éric Zemmour depuis la fin des depuis les années 80, on va dire, jusqu'aux années 2000, avec une libéralisation du marché de la télévision, une mise en concurrence des chaînes, oui. L'arrivée là-dessus des chaînes d'info et des réseaux sociaux. Et vous expliquez très bien, Gérard Noiriel, comment l'un et l'autre, à un siècle d'écart, vont se servir de ce système médiatique, de ces leviers, pour exister. Et pour exister, il faut polémiquer.
Bienvenue ce matin à l'heure des pros. Il est l'homme par qui le scandale arrive. Aime-t-il cette odeur de soufre qui l'accompagne à chacune de ses sorties?
Bonsoir Éric Zemmour, bonsoir. Merci d'être notre invité. Vous merci publiez vous. Destin français, 568 pages sur votre vision de l'histoire de France. Il y a déjà une polémique et donc on va commencer parce que c'est l'actualité.
Moi, je crois que le bouquin mérite toujours et plus que jamais une autre polémique. C'est un peu dommage, je suis d'accord avec Pascal, que ça ait démarré là-dessus.
C'est extrêmement intéressant l'analyse, Gérard Noiriel, que vous proposez de l'utilisation de la polémique. Vous vous dites, ils sont l'un et l'autre contraints d'alimenter sans cesse de nouvelles polémiques. Pourquoi ? Parce que plus la polémique choque, plus elle est dénoncée, et plus elle est dénoncée, plus l'un et l'autre peuvent se présenter comme des victimes.
Voilà, et là donc il y a le système aussi, je dirais médiatique, qu'on voit se mettre en place à la fin du 19e siècle avec les journaux. Mm-hmm. Parce que lorsque Drumont sort son pavé, il faut voir que la violence verbale était beaucoup plus forte chez Drumont que chez Zemmour, parce que les lois aujourd'hui qui pénalisent le racisme n'existaient pas. Mm-hmm. Mais la plupart des gens, je dirais des Français, qui ils sont sidérés de voir ça, tellement il y a d'insultes, etc. On le prend pas au sérieux, on le traite de fou après. Mais il a des liens, notamment avec Daudet, qui fait pression Alphonse Daudet, qui fait pression sur le rédacteur en chef du Figaro de l'époque, qui n'était pas le même qu'aujourd'hui, mais c'était un grand journal déjà. Et donc ils vont faire un compte-rendu en disant, Magnard dit attention. Je ne partage pas tout, mais c'est un livre dont il faut parler. Mm-hmm. Et ils installent comme ça le truc qu'on retrouvera en France même avec Le Pen, en disant, oh là, c'est horrible, mais on en parle. Et évidemment, c'est cette logique-là du scandale, du parfum de scandale, comme ça fait vendre des journaux. De même qu'aujourd'hui, ça fait de l'audimat, si vous voulez. Oui. Eh bien, les journalistes qui ont les yeux braqués sur le nombre d'abonnés qu'ils ont à leurs journaux vont dire, nous, entre eux, en aparté, ils disent, ouais, c'est un peu un hurluberlu, etc. Mais au fond, ils cautionnent ça. Et du coup, ça a des effets aussi sur les publics. Donc, c'est pour ça que la polémique, c'est extrêmement important. Mais la polémique, elle ne se réalise pas de la même manière à la fin du 19e aujourd'hui.
Oui, en effet, vous vous dites, l'un et l'autre ont utilisé l'insulte ad nominem pour vendre leur livre. Parce que un best-seller, attention, ça se fabrique. Je vous propose d'écouter, puisque l'un et l'autre manient l'art du duel et l'art de provoquer l'autre en duel. Je vous propose d'écouter Éric Zemmour. Il avait attaqué plusieurs fois l'humoriste Yacine Bellatar. Là, on est sur la chaîne CNews qui s'est frotté les mains. Pascal Praud a carrément organisé le duel sur son plateau télé. C'était le 19 mars 2019.
Je viens essayer, il démissionne, donc je me dis il ne va pas débattre avec moi, puisqu'il estime que je suis le fils d'Hitler. Donc c'est une cohérence qu'apparemment M. Bellatar n'a pas, mais j'en suis ravi de pouvoir débattre avec lui, et moi aussi de vous dire les yeux dans les yeux ce que je pense de vous. Parce que c'est pour ça que j'ai accepté. C'est parce que je pense que Yacine Bellatar n'est pas un humoriste qui fait rire personne. À part sa mère, parce qu'elle est indulgente.
Y a des règles où on a dit pas les mamans, pas les fringues.
Il y a des règles, comme le duel au Bois de Vincennes.
Voilà, alors ce qu'il faut rappeler, effectivement, peut-être que les auditeurs ne le savent pas, mais c'est ce que je montre dans le livre, c'est le rôle nouveau que va jouer le duel. Mais le duel, à l'époque, c'est à l'épée ou au pistolet, au Bois de Vincennes, au Bois de Boulogne. Et Drumont va avoir dans sa vie, je crois, 9 duels. Et ce qui va faire sa notoriété, au fond, parce que vous croyez que son bouquin fait 1200 pages, je croyais que les gens... Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Un livre, c'est la réputation d'un livre, c'est souvent sur un mot, sur une phrase, sur... Voilà. Et là, du coup, ce qui va faire vraiment sa notoriété, c'est le duel. qu'il va avoir avec quelqu'un qu'il avait insulté, qui s'appelait Édouard Meyer, qui était le directeur d'un grand journal qui s'appelait Le Gaulois, qui était juif mais converti au catholicisme. Donc tout ça pour Édouard Meyer, ça n'a pas d'importance. Mais du coup, l'autre le traite de juif, enfin, d'argument antisémite. Et Édouard Meyer veut défendre sa dignité et il provoque l'autre en duel.
Sauf qu'Édouard Meyer remporte ce duel, mais que le juge estime qu'un de ses coups est déloyal. Voilà. Et du coup, encore une fois, Drumont peut se faire passer comme victime. C'est fondamental dans votre analyse, Gérard Noiriel. C'est-à-dire que ces débats et ces polémiques reviennent systématiquement à faire passer le pamphlétaire pour une victime.
C'est ça. Et quand vous entendiez tout à l'heure, vous avez passé cet extrait-là avec Zemmour, où il dit « vous me présentez comme Hitler ». Vous comprenez, c'est une manière de... Constamment, vous avez ça. Si vous utilisez un argument, on dit « je ne peux jamais parler », etc. Mm-hmm. À cette époque, alors là, c'est plus... Il n'y avait pas la télé, mais c'est écrit dans tous les journaux. Tous les journaux de France vont en parler. Il est blessé. Drumont est blessé et il dit... Il s'écrit « vous pourrez dire qu'un juif a tué un chrétien ». C'est ça l'argument, dans toute la presse on va trouver ça. Et du coup, les gens vont voir, il va à l'hôpital, les gens vont le voir, ça fait une sorte de feuilleton, une série. Après, il y a un procès, parce que les duels étaient interdits par la loi. Donc après, il y a le procès, il y a
toute une logique. Et d'ailleurs, vous dites, chez Éric Zemmour aussi, c'est cet art de rester sur la crête. Voilà. C'est-à-dire d'insulter, d'attaquer, de déraper en évitant le procès. Voilà. Alimenter la machine sans s'en faire exclure.
Et ça, c'est aussi Drumont qui l'a inventé. Il dit, faut parler à demi-mot.
C'est ça.
Parler à demi-mot. Mm-hmm. C'est-à-dire, toujours naviguer pour pas être condamné par la justice pour, diffamation, etc. Mm-hmm. à l'époque. Donc, c'est ce que fait aussi Zemmour. On l'a vu avec cette affaire du Corriere della Sera, là, où le mot déportation n'a pas été employé, etc.
C'était une interview que Zemmour avait donnée à la presse italienne.
C'est remonté jusqu'à la Cour de cassation. Oui. Hein, et au final, il a réussi à s'en sortir. Donc, on a toujours ce jeu qui est un art. Hein. Mm-hmm. Moi, je considère que Drumont, comme Zemmour, ont une forme d'art. Le problème, c'est que c'est complètement contradictoire avec les règles de la raison telles que nous, en tant que chercheurs, en tant qu'historiens, on les déploie. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre aussi, parce que je n'avais pas supporté que dans son dernier bouquin, il détruise notre profession, puisqu'il nous traite de gens qui sont des mafias, qui ont le pouvoir, etc.
C'est intéressant parce qu'on en revient encore à la même chose, c'est-à-dire qu'il vous accuse, vous, les historiens de métier, de confisquer l'histoire avec un grand H. Et il dit, et c'est bien ça qui est intéressant, c'est-à-dire il dit, vous aussi, vous nous écrasez. Vous aussi, vous nous bâillonnez. Et là, il vous fait le procès que font Édouard Drumont et Éric Zemmour à toutes les élites. Voilà. C'est-à-dire, vous empêchez de parler la voix du peuple.
Voilà, ce que je montre aussi dans le livre, c'est le danger au-delà de ces personnes, de ce genre de pratique, si vous voulez, de discours. Parce que je pense, si vous voulez, là j'ai pris ces deux exemples parce qu'ils sont extrêmement importants dans l'histoire de France. Donc juifs, musulmans, juifs hier, musulmans aujourd'hui. Mais je pense que Trump, par exemple, avec les hispaniques, ce qu'on a vu, enfin avec les attentats, enfin les crimes qui ont été commis contre les hispaniques, la théorie du grand remplacement, elle peut être motivée par n'importe quel groupe. Hein, faut bien voir ça. C'est une fois que vous avez réussi à construire une image de l'ennemi, de celui qui vous menace, et que vous avez fait pénétrer ça dans la tête des gens, eh bien vous pouvez mobiliser, évidemment, pas une infime minorité, enfin, je ne vais pas généraliser non plus et dramatiser, mais je pense que dans le contexte politique dans lequel on est aujourd'hui, avec la montée de ce qu'on appelle les populismes, ce genre de choses doit être vraiment analysé de manière très ferme, et la responsabilité
la rhétorique
des journalistes aussi.
Populiste. Oui, la responsabilité des journalistes. Parce que vous le dites à plusieurs reprises dans votre livre. Vous dites, tout le monde invite Éric Zemmour pour un livre qui est ouvertement sexiste, misogyne, homophobe, islamophobe, raciste et qui propose une version indigente de l'histoire. Il est reçu partout dans des mêmes médias où on dénonce tout le temps à tout bout de champ la montée du populisme. Alors, justement, cette rhétorique populiste, Gérard Noiriel, vous l'analysez en détail. D'abord, vous dites, on parle ici d'une histoire identitaire. La France est une personne. Son identité, elle est menacée, elle est agressée, elle est abandonnée. Et l'histoire se répète. C'était déjà la grammaire de Drumont. C'est aujourd'hui celle de Zemmour.
Oui, c'est ça. On a cette logique. Donc, c'est une forme de récit. Vous voyez, je dirais donc, un récit est dramatique. On a deux personnages centraux. Et donc, le français, qui est toujours victime, et le narrateur, donc en l'occurrence Drumont ou Zemmour, parle au nom des Français. Donc, eux-mêmes, c'est pour ça qu'ils ont obligés de se dire qu'ils sont eux aussi victimes. Même s'ils passent tous les jours à la télé, etc. Ah ben non, on les brime, on les baïonne, etc. Donc il y a cette logique-là qui est fondamentale.
Et d'ailleurs, vous dites qu'ils font une égo-histoire. Ils sont en permanence dans la référence autobiographique. Voilà. L'un et l'autre sont nés dans des milieux très populaires et donc ils se revendent du peuple parce que moi, quand j'étais petit, moi, là où j'ai vécu, moi, là d'où je viens.
Voilà, et donc, si vous voulez, c'est aussi un autre argument. Quand Zemmour dit, par exemple, que ceux qu'il critique, comme moi, par exemple, c'est du mépris de classe.
Oui.
Donc c'est pour ça que moi, j'ai quand même, dans l'introduction du livre, rappelé ma propre trajectoire, parce que je viens d'un milieu plus populaire que celui de Zemmour. J'ai travaillé avec une passion pour la recherche, pour la science, et je peux pas accepter que tout ça soit piétiné, qu'on vienne me dire que je fais du mépris de classe à l'égard de quelqu'un qui vit dans les beaux quartiers de Paris, qui, vous voyez, je veux dire, c'est scandaleux de faire croire ça aux gens. Mmh. Et les gens qui ne sont pas dans le milieu, comment voulez-vous? Bah, eux, ils se disent, oh, tout cela, c'est, voilà, les historiens, les autres, c'est la même chose. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, je défends le métier aussi des enseignants-chercheurs. Je sais ce que c'est. J'ai été aussi, en plus, j'ai passé par tous les ordres d'enseignement. C'est un métier extrêmement difficile. On est en contact constamment avec les gens. Le métier de chercheur, c'est un métier où là, on a un peu mis en avant grâce à vous. Mais la plupart du temps, c'est des journées dans les archives, dans les bibliothèques, etc.
Pour à Londres. Produire des,
en dehors
pendant
de
que tout. L'Éric Zemmour et l'Edouard.
Voilà. Ils sont sur les plateaux et viennent nous cracher dessus.
Et dans
comment admettre
la
ça
lumière.
Comment justement, accepter que des journalistes de toutes ces chaînes-là cautionnent ce genre de choses? C'est pas possible, il faut réagir.
Muriel, je vous entends et vous le dites très bien, il y a une inversion chez Édouard Drumont et chez Éric Zemmour de ce que vous appelez le dominant et le dominé.
Voilà, c'est un principe de base aussi, ils inversent. Les relations. Et je le montre, pas uniquement pour les juifs et les musulmans, mais pour toutes les minorités. Mm-hmm. Vous avez, par exemple, un point commun incroyable entre Zemmour...
Expliquez-nous ce que ça veut dire, cette inversion. Oui. C'est-à-dire, ceux qu'on avait l'habitude de voir comme des dominants, ils seraient en réalité des victimes.
Voilà. C'est-à-dire les Français, en gros.
Oui.
Donc, par exemple, pour expliquer les protestants, 17e siècle, Drumont, déjà, Zemmour ne le sait pas que Drumont avait écrit ça, parce que je ne pense pas qu'il l'a lu, mais comme Zemmour considère que finalement c'était bien fait pour les protestants. Mm-hmm. Hein, la ville de La Rochelle qui a quasiment été rayée de la carte par Richelieu, non, c'est bien, parce que ces protestants, on les a présentés comme des victimes, mais en fait, ils formaient un État dans l'État.
C'est
ils voulaient prendre la majorité.
Donc il en va de même avec les juifs pour Drumont, les musulmans aujourd'hui, pour Éric Zemmour, qui... Vous le citez, hein, Éric Zemmour, ils font la loi chez nous, ils dégradent notre langue française, ils ont des noms et des prénoms à coucher dehors, ils sont naturalisés abusivement et surtout, crime des crimes, ils refusent d'être des Français.
Voilà, mais vous trouvez tout ça dans Drumont aussi, à l'égard des Juifs. On l'a oublié, mais tous ces arguments, la polémique sur les noms, chez Drumont c'était sur les noms, chez Zemmour c'est sur les prénoms. Mais
la
c'est
même
la même
polémique.
Matrice. C'est une preuve qu'ils ne veulent pas s'intégrer, qu'ils veulent... On a la même logique, c'est ça qui m'a frappé. Au début, j'ai parti un peu dans l'inconnu, mais quand j'ai lu précisément les trucs, je me suis dit, mais c'est incroyable. C'était la même matrice, vous voyez. C'est une usine à fabriquer des arguments qui ont un pouvoir d'identification. Et les gens peuvent s'identifier facilement. Et les gens vont dire, bah oui, si je suis dans la misère, dans le drame, dans le déclassement, c'est à cause de... Voilà. Donc
et la télévision, quel merveilleux média pour l'identification. Ce sera mon mot de la fin. Merci beaucoup Gérard Noiriel. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le venin dans la plume, Édouard Drumont, Éric Zemmour et la part sombre de la République. C'est aux éditions de La Découverte. Un ouvrage de salut public. Merci d'être venu dans l'Instant M.